Chapitre 44. Charline. Je rêvais d'une bonne salade de tomates gorgée de soleil, accompagnée d'une boule de burrata bien crémeuse. L'envie ne m'a pas quittée de la matinée. Sauf que je n'avais pas de burrata au réfrigérateur. Grave erreur. Toujours avoir de la burrata au frais. Charline, toujours. C'est pour ça que je me suis rendue au supermarché. Si j'avais choisi de me préparer n'importe quoi d'autre, des bruschetta au pesto, une salade de melon et de pastèques, ou même un taboulé de chou-fleur, par exemple. Je n'aurais pas eu besoin de faire des courses car j'avais tous les ingrédients à disposition. Et je ne serais pas tombée sur Jocelyn et Sandrine poussant leur caddie. Je ne les ai pas revus ensemble depuis le matin où je les ai surpris. C'est d'abord elle que j'ai aperçue. Elle était en train de sélectionner avec soin une botte de poireaux. Des poireaux? Mais Jocelyn déteste les poireaux, comme à peu près tous les légumes verts d'ailleurs. Puis lui, de retour du rayon laitage avec plusieurs sortes de crèmes dessert dans les mains. J'ai tout juste eu le temps de m'engouffrer dans la première allée sur ma droite avant de me retrouver nez à nez avec eux et que l'on joue un remake de Rencontre du troisième type au rayon primeur. J'avais le souffle court, une furieuse envie de pleurer et plus aucun appétit. Je n'avais qu'un désir, rentrer chez moi, me mettre en boule sous ma couette malgré les 35 degrés ambiants et attendre que la journée se termine. Le tout sans même pouvoir compter sur l'amour inconditionnel d'Hippo présentement chez Jocelyn et Sandrine pour leur semaine de garde partagée. Je suis restée une bonne demi-heure plantée là, dans l'allée outillage, à comparer les différentes sortes de culots des ampoules. Gros culot à vis E27, petit culot à vis E14, culot GU5.3 ou encore culot à baïonnette, mon préféré, avant de trouver le courage de quitter le supermarché sans demander mon reste. Évidemment, je savais qu'il y avait des risques que je tombe sur eux dans la rue un jour. Mais je n'étais pas prête à les croiser aujourd'hui, dans mon supermarché, entre les salades et les carottes, alors que j'ai des cernes de panda et que je porte un vieux short délavé informe que je suis tentée de jeter à chaque début d'été, mais qui reste finalement dans mon tiroir parce qu'il est bien confortable. Le pire dans tout ça, c'est que ce n'était pas à moi de me sentir gênée et de quitter les lieux. Je n'ai rien fait de mal, après tout. Ce sont eux qui auraient dû renoncer à leurs poireaux et à leur crème dessert. Mais j'ai préféré tourner les talons pour nous épargner à tous d'avoir à nous saluer de loin d'un vague hochement de tête, sourire figé en option. À présent, assise dans mon petit jardin, une assiette de tomates sans burrata sur les genoux, je me sens ridicule et en colère contre moi-même. Mon téléphone vibre, un appel de ma mère. C'est comme si elle avait une sorte de sixième sens, car elle tombe toujours à un moment où j'ai besoin que l'on me réconforte ou que l'on me change les idées. Allô, maman? Comment ça va? Vous êtes où?
Coucou, ma chérie! On est à Salto de Agua, au Mexique.
Au Mexique? Mais je vous croyais à Cuba.
On y était, mais ton père en a eu marre des Cubains. Alors on a pris un bateau et hop, nous voilà sur les routes du Mexique.
Et les Mexicains trouvent plus grâce à ses yeux que les Cubains? Demandai-je en riant.
Tu connais ton père? Là, il s'est pris de passion pour les cascades. Il faut dire que celles d'Agua Azul sont à couper le souffle. La couleur de l'eau est incroyable. Nous sommes restés plusieurs heures à les contempler hier. Du coup, ton père s'est mis en tête d'aller voir toutes celles du pays. Heureusement que nous ne sommes pas pressés. Et toi, ma chérie, tout va bien? Tu régales toujours autant tes clients avec tes pâtisseries?
C'est la routine ici. J'ai pris quelques jours de vacances avec deux copines. C'était super. Je suis regonflée à bloc pour au moins un an. Comme ça, si d'aventure quelqu'un lui apprenait que le salon de thé est fermé, je pourrais toujours lui rappeler que je lui avais parlé de ces quelques jours de vacances.
Tant mieux, tu as bien raison de profiter un peu de la vie. Bon, il va falloir que je te laisse. Ton père dit qu'on va encore arriver après le coucher du soleil. Je l'ai obligé à faire un détour pour avoir un peu de réseau et pouvoir t'appeler.
Oui, bien sûr, vas-y. Fais une bise à papa pour moi. Je raccroche. Ils ont vraiment l'air heureux avec leur camping-car, à voyager de pays en pays au gré de leurs envies. Ou des lubies de mon père. Ils l'ont bien mérité. À moitié assoupie à cause de la chaleur du soleil qui tape fort aujourd'hui, je sursaute au bruit de la sonnette de l'entrée. L'espace d'un instant, je pense à Jocelyn et Sandrine. Si ça se trouve, ils m'ont vu ce matin et ont décidé de m'apporter un poireau de réconciliation. On ne pense jamais assez à offrir des poireaux de réconciliation. Je chasse cette idée farfelue, mais néanmoins horrifiante de ma tête pour aller ouvrir.
Bonjour Charline, je te dérange pas ?
Devant moi se tire Anna. Non, bien sûr que tu me déranges pas. Je t'en prie, entre. Tu veux boire quelque chose?
Je suis désolée, je peux pas rester. Valentin m'attend dans la voiture. Je voulais juste venir te dire au revoir. Je rentre chez moi.
Ah, bah, c'est formidable.
Je suis vraiment très heureuse pour toi.
Oui,
J'ai un peu peur, mais je crois que c'est la bonne décision. Je n'ignore pas que si je suis encore là, c'est grâce à toi. L'autre jour sur la plage, quand j'ai failli... Merci pour ce que tu m'as dit. C'était... Ça m'a fait beaucoup de bien. Sans réfléchir, je m'avance et la serre dans mes bras. T'es une fille incroyable, Anna. Tu mérites d'être heureuse. Merci. J'espère qu'on se reverra. Je perçois beaucoup d'incertitude dans sa question, et je devine qu'Anna ne redoute pas que le temps et la distance ne finissent par nous éloigner. Non, son inquiétude est liée à ma maladie, et au fait de savoir si dans un mois, un an, je serai toujours en vie. Je voudrais balayer ses craintes d'un revers de main, accompagné d'un « Arrête tes conneries, bien sûr qu'on va se revoir ». Mais la vérité, c'est que je ne peux rien lui promettre. Alors je me contente de la serrer un peu plus fort. « Prends soin de toi, Anna », dis-je avant de m'écarter. « Toi aussi ?» Elle s'éloigne de quelques pas, puis se retourne pour me faire un signe de la main. Un instant, je pense qu'elle va ajouter quelque chose, mais elle se contente de m'adresser un sourire, aussi timide que fugace, à son image. Quand l'heure du rendez-vous chez l'hématologue approche, je suis tentée d'appeler pour annuler. Sauf que Valérie débarque à son tour chez moi. « Tu m'as demandé de t'accompagner à ton rendez-vous, je t'y accompagne », me dit-elle lorsque je lui ouvre la porte. « Oui, enfin, l'idée c'était de se retrouver là-bas, pas que tu viennes me chercher. » Et que t'en profites pour te défiler? Dois-je te rappeler que j'ai 2 enfants? J'ai beau ne pas être la plus intuitive des mères, on ne me la fait pas à moi. Anna est passée me voir tout à l'heure, dis-je pour détourner l'attention. Pour annoncer qu'elle rentrait chez elle. Oui, je l'ai vue aussi avant son départ. Elle, qui est si menue, a pourtant pris beaucoup de place dans nos vies. J'espère que ça va aller pour elle, qu'elle n'aura pas à revivre la même épreuve. Tu crois que ça peut arriver 2 fois, un drame pareil? Je ne sais pas. J'ai essayé de la rassurer à ce sujet tout à l'heure, mais comme les causes de la mort subite du nourrisson sont encore inconnues, on ne peut être sûr de rien. Et tu sais toi-même que la vie peut se montrer très cruelle quand elle l'a décidé. Mais j'espère de toutes mes forces que ça n'arrivera pas. C'est pas le tout, mais il faut pas qu'on tarde, enchaîne-t-elle soudain. On va finir par être en retard. Valérie me laisse à peine le temps d'attraper mon sac à main avant de prendre mon bras et de me guider vers sa voiture. Je suis certaine que tout va bien aller pour toi aussi, tu vas voir. La salle d'attente est assez austère. Personne ne s'est jamais dit que ça pourrait être sympa de mettre de la couleur sur les murs ou d'ajouter un peu de décoration. L'endroit est suffisamment angoissant comme ça. Une salle d'attente peinte en rose bonbon, avec des sièges turquoises, des poufs, quelques photos en noir et blanc sur les murs, des bougies et bien sûr 2 ou 3 petites coupelles de trucs à grignoter, voilà qui changerait un peu. Mais non, les murs sont blancs et les sièges en plastique gris. Il n'y a même pas de revue datant des années 2000 à disposition. Comment ça, Nicole Kidman et Tom Cruise divorcent? Il paraît que c'est interdit par les règles d'hygiène. Madame Pujol? Ève Dumont est apparemment une hématologue de renom. C'est en tout cas ce que m'en a dit mon médecin. J'ai devant moi une très belle femme, maquillée avec soin, perchée sur des talons aiguilles de 10 cm malgré sa grande taille. Loin de l'image que renvoie sa salle d'attente et sa spécialité. À quoi est-ce que je m'attendais? À une femme desséchée, rabougrie, poilue avec des verrues sur les joues? Asseyez-vous, nous indique-t-elle après avoir refermé la porte de son bureau. Habituellement, les médecins affichent sur leurs murs toutes sortes d'images en rapport avec leur activité. L'anatomie d'un cœur, la découpe d'un globe oculaire ou celle d'un poumon. Mais on ne trouve rien de tel chez le docteur Dumont. Seulement des images de fleurs. Le cancer du sang ne se représente pas en lui-même. Il n'a d'existence que par les personnes qui l'atteint. Et pas sûr que ce soit très vendeur d'afficher des photos de gens rongés de l'intérieur par cette saloperie. Votre médecin traitant m'a transmis votre dossier il y a plusieurs jours. J'ai bien cru que vous ne viendriez jamais me voir. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'a effleuré l'esprit. J'imagine qu'on vous a dit qu'avec cette maladie, le facteur temps est essentiel. Plus on agit vite et plus on augmente les chances de guérison. Les résultats de votre myélogramme montrent une leucémie aiguë. C'est une pathologie que nous connaissons bien et pour laquelle nous avons des solutions thérapeutiques efficaces. Le taux de guérison complète sans récidive avoisine les 50%. Vous êtes jeune, on peut raisonnablement espérer que je vais faire partie des 50% qui guérissent. J'interviens. Il faut que vous sachiez que je n'ai pas beaucoup de chance dans la vie. J'ai dû faire quelque chose de moche, de très moche, dans une vie antérieure que je paie aujourd'hui. Si une punaise est tombée au sol, vous pouvez être certaine que je vais me l'enfoncer dans le genou en la cherchant. Vous êtes fille unique, je crois, enchaîne-t-elle imperturbable. Oui. « Ce n'est pas grave. Les chances de compatibilité sont aussi très bonnes avec les ascendants. Vos parents ont déjà pris rendez-vous pour faire les examens ? Je ne les ai pas prévenus que j'étais malade. Et il est hors de question que je le fasse. Ils sont partis en voyage depuis quelques mois pour réaliser le rêve de leur vie. Faire un tour du monde en camping-car. À l'heure où l'on parle, ils sont au Mexique, en train de s'émerveiller devant les eaux turquoises d'une cascade. Si je leur disais, ils abandonneraient tout sur le champ et ne me quitteraient plus d'une semelle. Je refuse de leur infliger ça. Donc, je n'ai ni frère, ni sœur, et appeler mes parents n'est pas envisageable. Quelle est la suite du programme dans ces circonstances ? Je ne suis pas sûre de comprendre. Vous refusez de faire appel à vos parents parce que vous ne voulez pas interrompre leurs vacances au Mexique ? Vous avez parfaitement compris. Et ce ne sont pas de simples vacances, c'est l'aboutissement de toute une vie de travail. Ils préparent ce voyage depuis des années. Je les connais, s'ils doivent rentrer parce que je suis malade, jamais ils ne repartiront. Ça peut paraître con, mais c'est ma décision, et tant pis si... Si on ne trouve pas de donneur compatible. Oui, tant pis. Mon père n'est plus tout jeune, il approche les 70 ans, et je sais que c'est sa seule chance de réaliser son rêve. Valérie me prend la main et la serre un bref instant dans la sienne avant de la relâcher. Les mâchoires de l'hématologue se crispent. 70 ans, vous dites ? Et votre mère, quel âge a-t-elle ? Elle a 2 ans de moins que papa, pourquoi ? J'aurais dû commencer par vous poser cette question. Il se trouve qu'il faut avoir moins de 60 ans pour être donneur. Au-delà de cet âge, les greffons ne sont plus assez riches en cellules souches, et les chances de réussite de la greffe ne sont plus optimales. Eh bien, voilà qui règle la question. Quelles options me restent-ils ? Ève Dumont me regarde d'un air dubitatif. Je devine à son expression qu'elle ne comprend pas pourquoi je semble si soulagée de cette nouvelle. Mais en bonne professionnelle, elle enchaîne. Nous allons interroger le fichier international des donneurs de moelle osseuse et espérer y trouver quelqu'un disposant d'un taux de compatibilité suffisant pour que nous puissions envisager une greffe. Le processus peut être très long. Dans tous les cas, il vous faut débuter au plus vite une chimiothérapie pour détruire toutes les cellules cancéreuses. Je devine qu'elle a envie d'ajouter « Le temps vous est compté, Madame Pujol. » Mais elle n'en fait rien. Donc, pour le donneur, on attend ? Oui. Je vais transmettre tous les éléments biologiques en notre possession et dès que j'obtiens une réponse, je vous appelle. Dans l'intervalle, reposez-vous le plus possible avant le début de la chimiothérapie. Est-ce que vous avez des douleurs, des nausées ? Non, juste des vertiges. Je vais vous prescrire quelque chose qui devrait vous soulager. Elle pianote sur son ordinateur, puis imprime une feuille qu'elle me tend. Il faut garder espoir. S'il existe un donneur compatible, nous le trouverons. Au fond de ses yeux, je vois bien qu'elle n'y croit pas elle-même.